Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et comme vous le savez, de la galaxie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cette 18e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Le championnat reprend après cette pause estivale. On a eu la chance d'avoir le trophée des champions où le PSG a été couronné face à Toulouse. On a eu aussi la chance de voir des beaux matchs en Coupe de France. Et là, c'est le championnat, la Ligue 1 Uber Eats, qui reprend ses droits ce week-end. Petit changement de programme, alors léger changement de programme, on va encore parler de deux matchs principaux, mais cette fois on a décidé de modifier la fin, on sera plus l'actu de la semaine, mais maintenant on fera un tour des stades, ce qui nous permettra de parler d'un peu tous les matchs de la journée, voilà, que vous ayez une vision complète sur chaque journée. Pour m'accompagner pour ce retour du championnat de France, Maxime, comment tu vas? Maxime, bonne année, beau retour, content de te revoir et content de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Salut Desti, salut Alex, salut à tous, ben, bonne année à tous, profitez bien de vos proches, la santé avant tout et puis le reste, c'est le football.
Exactement. Et ça reste qu'un jeu. et comme tu l'as dit, notre deuxième, j'ai même plus envie de dire invité, maintenant c'est un résident. Alex, comment tu vas, Alex?
Salut, Desti, ça va? Très bien pour moi. J'ai passé de belles fêtes. Les fêtes se sont ponctuées avec un beau match Strasbourg-Lille où j'étais au stade. C'était magnifique. Donc, les fêtes ont vu le football me suivre jusqu'au bout. Donc, j'étais content et je suis encore plus content de revenir avec vous ce soir. Et salut Maxime, à toi aussi. Désolé.
Là, ça commence, la petite confrontation René-Nantais.
Non, pas
je n'ai rien dit. Encore.
Alors messieurs, aujourd'hui on va se concentrer sur deux matchs. C'est vrai que c'est une très belle journée, la 18e journée de Ligue 1. Il y a des très beaux matchs, mais bon, voilà, on ne peut pas tous passer du temps dessus. En tout cas, on en a sélectionné deux. Le premier match, c'est Monaco-Reims. Monaco-Reims, c'est deux équipes qui sont dans deux dynamiques complètement différentes. Pour rappel, Monaco-Reims était affronté le 7 octobre. Il me semble, ouais, c'était le 7 octobre. Monaco s'était imposé 3-1 à l'extérieur. Là, on sera à domicile. Donc, comme je vous dis actuellement, Monaco est 3e avec 33 points, tandis que Reims est 8e avec 26 points. Reims qui a connu une certaine dégringolade. Hein. Sur les 6 derniers matchs, elle a quand même eu 4 défaites et 2 victoires, tandis que Monaco, sur les 6 derniers matchs, est à 3 victoires, 2 défaites et 1 nul. Monaco qui s'est d'ailleurs récemment qualifié face au RC Lens, match magnifique, enfin en tout cas une séance de pénalty magnifique. Messieurs, je vais vous lancer tout de suite, hein. On va commencer par toi Maxime pour ton retour. On va commencer avec l'équipe de Reims qui a été dépouillée clairement avec les compétitions, donc la CAN et la Coupe d'Asie. Donc juste pour te faire un petit récapitulatif, on a Mounetzi qui est blessé, Abdelhamid en sélection, Diakité en sélection, Richardson en sélection, Ito en sélection, Nakamura en sélection, donc c'était Ibrahim Diakité le premier, Oumar Diakité en sélection. On a le retour de Wilson Esbrand, de Maxime Buzy, de Valentin Atangana. Toi, Maxime, cette équipe de Reims, est-ce que tu penses qu'elle va pouvoir rivaliser et être compétitif face à l'AS Monaco, malgré toutes ses absences?
Je pense que ça va être compliqué sur toute la période CAN-Coupe d'Asie, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a énormément d'absents. Et c'est pas des absents qui sont régulièrement remplaçants, c'est vraiment des titulaires indiscutables pour la majorité. Donc c'est vrai que ça va faire du mal. En plus, Mounetzi qui est blessé, qui fait vraiment du bien. Je regardais un petit peu tout à l'heure et c'est vrai qu'en fait, sur les joueurs qu'il reste, il reste uniquement deux joueurs qui ont mis des buts depuis le début de saison. Il y a Darami et le défenseur central Wilson Esbrand. C'est tout. Le reste, en fait, c'est Teddy Thomas, pardon. Il y en a trois. Mais c'est vrai que le reste, c'est tous les joueurs qui partent. Donc, ça va être très compliqué. Abdelhamid, ça va faire énormément de mal parce que c'est vrai que derrière, c'est vraiment lui qui tient la baraque. Donc, je pense que tant offensivement que défensivement, ils ont intérêt à ce que les joueurs reviennent vite de la CAN et qu'ils espèrent que certains pays n'aillent pas trop loin.
Ouais, qu'ils sortent pas des poules, quoi.
C'est ça. Les premiers tests contre Monaco, c'est pas le plus simple. Donc, peut-être qu'ils vont s'habituer à jouer avec d'autres joueurs parce qu'ils vont pas avoir le choix. Mais, premier test contre Monaco, c'est pas le plus simple. Donc, je vois malheureusement un match très difficile pour les Rémois.
Ok. Alex, pareil, je te pose la même question. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe rémoise avec toutes ces absences? Reims qui s'est qualifié, j'ai oublié de le préciser, pareil en Coupe de France contre voilà Dinan-Léon, une petite équipe. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette équipe rémoise et quel type de compo aussi on peut s'attendre à voir? Parce que là, je t'avoue que quand tu regardes les joueurs qui restent, ça va être beaucoup de bricolage, surtout en défense. Dis-nous ce que t'en penses, Alex.
Alors, je pense plus ou moins comme Maxime. Déjà, le stade de Reims, ça va être compliqué pour eux pendant la CAN, pardon, et la Coupe d'Asie. Rien que pour le fait qu'ils ont eu cette stratégie de transfert, enfin de recrutement, de construction d'équipe autour de. Et j'aime beaucoup cette stratégie, hein, mais autour de petits joueurs étrangers, africains, asiatiques, etc. Et c'est super intéressant, mais forcément, il y a toujours, il fallait que ça passe par une période où la CAN et la Coupe d'Asie se recroisent. C'est dommage pour eux parce que ça arrive au pire moment, je pense, pour Reims. Parce que comme tu disais au début, bah, ils ont commencé la saison très très bien et là, ça fait quelques dizaines de matchs qu'ils sont en perte de vitesse et c'est vraiment dommage pour eux. Mais j'ai quand même confiance en l'équipe en général parce que je trouve que Reims est assez soudé dans tout le club, l'équipe, les titulaires, les remplaçants, les réservistes, les jeunes, etc. Et concernant la compo, je m'attends pas à grand chose de différent parce que j'imagine, hein, enfin, j'espère, je suis pas allé vérifier, je l'avoue, mais les entraînements, ils ont dû les préparer, hein. Ils ont dû garder la même compo, la même stratégie de jeu, etc. Mais à essayer d'appliquer ça aux jeunes, aux remplaçants, etc. Et je pense que ça peut être une bonne occasion de voir Darami, enfin. Parce que depuis le début de la saison, comme Maxime le disait, c'est un des seuls buteurs qui reste pendant cette période de janvier. Mais depuis le début de la saison, je trouve qu'il ne s'est pas exprimé à son plus haut potentiel parce que tu avais toujours, je vais pas dire une armada, mais tu avais toujours cinq autres joueurs dans l'équipe qui canalisaient tous les ballons, qui magnétisaient toutes les actions et qui marquaient, qui se montraient un peu plus que lui, je pense. Et ça peut être une bonne occasion, hein, de le voir. Après aussi, Monaco aussi a eu beaucoup de départs à la CAM et avec Minamino aussi qui part, donc ça peut justement peut-être équilibrer les deux équipes.
J'espère, ouais, en tout cas. On va revenir sur Monaco après, parce que moi, ce qui m'inquiète aussi, au-delà des départs, c'est vrai que Reims était quand même sur une spirale assez négative, hein. Alors certes, ils ont gagné leur dernier match face au Havre, bon, c'était sur un petit score d'1-0, mais ce qui est inquiétant, c'est que sur cette première partie de saison où Reims avait quand même, on va dire, l'ensemble de son effectif, Reims n'a battu aucun gros. Ils ont perdu contre Marseille, 2-1. Ils perdent contre Brest, 2-1. Ils perdent contre Monaco, 3-1. Ils perdent contre PSG, 3-0. Ils perdent contre Nice, 2-1. Ils perdent contre Lens, 2-0. Avec l'effectif complet, ils avaient du mal. Là, ils ont un effectif moindre. Est-ce que, au final, on doit être inquiet pour cette équipe rémoise dans le sens où, ce match de Monaco en particulier, ce mois de janvier-février, ça peut être la descente aux enfers. Ou alors, est-ce qu'on peut tomber sur une bonne surprise parce qu'on a quand même un Will Steele qui a montré que c'est un bon coach. Est-ce que là, voilà, c'est le moment de montrer, bon, il nous a montré sa valeur, mais là, est-ce que c'est le moment de montrer que c'est The Magicien? T'en penses quoi, Maxime? Est-ce que tu as confiance en ce Will Steele? Est-ce que tu penses qu'il peut renouveler son équipe contre Monaco?
Bah après, je pense que déjà, ils perdent contre les gros. L'avantage, c'est qu'ils gagnent contre les petits. Et c'est peut-être là où certains vont avoir du mal, c'est que, y a des grosses équipes qui vont perdre contre des petits clubs, et c'est là où ils vont perdre des points bêtement. Quand on regarde le calendrier de Reims sur les prochains matchs, là, ils jouent Monaco, donc oui, ça va pas être simple. Après, il y a la Coupe de France qui arrive. Et après, sur les 3 matchs suivants, ils reçoivent Nantes. Ils reçoivent Toulouse, ils vont à Lorient. Donc là, ça va être 3 équipes qui vont être à leur portée. Et je pense que bah, ils ont entre guillemets le match de Monaco plus le match de Coupe de France pour se mettre en jambes avec l'effectif hors CAN et hors Coupe d'Asie pour essayer justement de faire ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire gagner contre les petits. Et c'est ça qui devrait les sauver. Donc moi, j'ai pas forcément peur pour la saison, on va dire, de Reims. Pour le match contre Monaco, c'est différent, mais c'est vrai que j'essaye de voir plutôt long terme parce qu'ils produisent du beau jeu et c'est souvent agréable à voir jouer, hein. Donc, tant qu'ils gagnent contre les petits et ceux qui sont derrière eux, moi ça me suffit. C'est bien de battre les gros, bien sûr, pour le spectacle, pour tout ce qui peut suivre derrière, mais l'essentiel pour eux, en tout cas, je pense, c'est déjà de battre ceux qui sont à leur portée et essayer d'engranger le plus de points possible.
Ok. Du coup, tu voulais dire quelque chose, Alex? Ou
Ouais,
non?
j'allais dire quelque chose.
Allez,
Si,
vas-y.
si,
J'ai
rapidement, si
entendu ton petit souffle là.
je peux. Non, je relève pas le détail des petites équipes que Reims va. Oula, je sais plus parler. Contre
Va
qui et contre
affronter.
qui Reims va jouer. Voilà, va affronter, merci. Mais non, j'allais ajouter que peut-être que la priorité de Reims aujourd'hui, enfin, ce week-end, ce sera de, comme Maxime le disait, de se mettre en jambes pour surtout le match de Coupe de France la semaine prochaine. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils affrontent Sochaux, donc une équipe qui normalement pourrait être à leur portée. Et ce serait peut-être l'année pour Reims de faire quelque chose en Coupe de France, de jouer leur jeu, surtout avec Will Steele qui, voilà, comme on l'a dit, est très, très convaincant, très, bah, très bon, quoi, avec les jeunes, avec les plus petites équipes, on va dire. Et j'aimerais bien voir Reims partir loin en Coupe de France. Après, s'ils peuvent gagner contre les petits en Ligue 1 aussi, c'est parfait. Mais à partir du 4 février contre Toulouse.
Ok,
Voilà, c'était pour moi.
donc full confiance en Will Steele, quoi. Ok,
Ouais,
c'est
Alex, quand je disais gagner les petits, c'est vrai que j'ai cité Nantes. Bon,
Ça m'a fait
les
mal.
petits,
Ça m'a fait très mal.
ils sont à la portée de Reims. C'est vrai que quand on voit un Reims-Nantes, on se dit pas tout de suite Nantes va surclasser Reims de suite. Non, on va dire que c'est deux équipes qui sont à peu près équivalentes. Et c'est vrai que
Oui, non, c'est
pourquoi
vrai.
Reims et on va dire dans la première partie de tableau, c'est parce que justement ils font le travail sur des équipes. Je peux mettre Rennes dedans. Ils font du travail contre des Strasbourg, des Rennes, des Montpellier, des Metz, des Toulouse, des Clermont. Ils arrivent à gagner ces matchs-là et c'est ça qui permet justement de pouvoir voir le haut, en tout cas la première partie du tableau.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, ça va nous permettre d'enchaîner
Et
sur
ça depuis longtemps
Monaco.
aussi d'ailleurs, parce que Nantes, on n'a pas gagné.
Vas-y, Alex, hein, t'inquiète, t'inquiète, j'attends. On a perdu Alex? On a perdu Alex.
Je pense qu'on a dû le perdre, comme le FC Nantes.
Ah, c'est petit ça. Du coup, bah, avant d'enchaîner sur Monaco, à quel type de compo on pourrait s'attendre pour Reims? Moi, c'est vrai que quand je regardais les joueurs, je regardais un peu ce qui passait un peu dans les médias et tout ça. Aujourd'hui, comme compo qu'on pourrait attendre pour Reims, ce sera une défense avec bah, Smet, Okoumou, Agbadou et Buzi qui reviennent d'ailleurs, qui sont de retour. Au milieu, Kadra, Matsou, Ziwa, Thomas. Et en attaque, Salama, Darami et Diakon. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que c'est une compo qui est probable pour ce match ou on peut s'attendre à des petites surprises de la part de Will Steele, Maxime?
Tu m'as donné exactement la même composition qu'ils ont eue face à Dinan Léon, c'est ça?
À peu près.
C'est exactement ça. C'est possible d'aligner exactement la même, parce que c'est vrai que, bon, on l'a vu, ils ont été en jambes, même si, bon, Dinan Léon, c'est vrai que c'est un petit club de chez moi, d'ailleurs. C'est un petit club, donc voilà, ils ont peut-être essayé. Il n'y a pas eu énormément de turnover, on va dire, sauf vraiment les joueurs qui sont partis à la CAN, mais c'est vrai que autrement, le reste est là. Pourquoi pas avoir un Wilson Esbrand rentrer. Après, moi, il y a le petit Valentin Atangana que j'aime bien. Je suis pas sûr
D'accord.
qu'il mette de suite parce que c'est vrai qu'il y a déjà énormément de changements avec tous les départs. Donc, je suis pas sûr qu'il lui fasse confiance d'entrée. Mais à la limite, pourquoi pas faire rentrer, pourquoi pas Wilson Esbrand qui est un bon joueur. Qui pourrait jouer à gauche à la place de Smet, potentiellement, pourquoi pas. Et au milieu de terrain, c'est vrai que, ou offensivement, au milieu de terrain, je vois exactement le milieu que tu as dit. Thomas Matuziwa et Kadra, ça pourrait être Kadra quand même. Et devant, Salama Darami, titulaire, je vais dire quasiment à 99%. Et avec le doublé de Diakon, pourquoi pas lui faire confiance également sur ce match. Mais j'aimerais bien voir rentrer le petit Valentin Atangana quand même, que je trouve très bon.
Ok. Alex, t'as des choses à redire, toi, sur la compo? T'en penses quoi? Est-ce que t'attends une petite surprise?
Je suis toujours pour les surprises.
Ouais.
Mais peut-être pourquoi pas avoir l'anglais, le petit Wilson Esbrand. Ah oui, vous en parliez, pardon.
Esben, c'est ça. Ouais,
Ouais,
on
Esbrand.
en parle.
Parce que
Bah
dans ma tête, ça connectait sur Wilson plutôt. Mais
ouais.
bref. Non, du coup, ouais, la compo, je suis plutôt d'accord. Parce que, voilà, offensivement et au milieu, ils n'ont pas tant d'autres choix que ça. Et je sais que Will Steele aime beaucoup faire confiance aux joueurs qui voilà qui confirment, qui pas qui confirment mais qui sont en bonne forme. Donc Diakon le remettre titulaire ce week-end, ce serait très bon pour lui, pour la confiance et pour son développement.
Ok.
Et puis c'est vrai que quand on regarde le banc de touche face à Dinan Léon, à part Wilson Esbrand, il n'y a que des joueurs de moins de 20 ans. Donc c'est vrai
C'est
que c'est
ça.
quand même très 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 jeune. Donc pour affronter une équipe de Monaco, je vais pas dire qu'il faut que des anciens, mais c'est vrai qu'il faut quand même un cadre avec des joueurs d'expérience. Et c'est vrai que mettre ces tout jeunes qui ont limite pas joué du tout depuis le début de saison contre Monaco, c'est peut-être aussi les envoyer au feu et pas les mettre dans les meilleures conditions pour démarrer.
Ah ouais, là tu les envoies au charbon là. Là c'est, bon, j'irais pas à dire tu vas tuer des carrières, mais ça peut quand même tuer un petit moral, surtout si Monaco derrière te met une petite valise. Du coup, en plus, bon, ça se joue à Monaco, mais ça va nous permettre d'enchaîner sur Monaco. Monaco, elle qui est sur une dynamique complètement différente, hein, comme je l'avais mentionné au début, hein, Monaco qui est actuellement troisième du championnat, qui est sur les 6 derniers matchs à 3 victoires, 2 défaites, 1 nul. Elle a fini la première partie de saison avec une victoire face à Toulouse. Bon, après Toulouse, c'est pas l'équipe extraordinaire cette année, mais c'est vrai que voilà, quand même Monaco sur ses formes actuelles, c'est une équipe du haut de classement, équipe qui peut prétendre à jouer la deuxième place, puisque la première, ça reste quand même assez difficile cette année face au PSG. Mais Monaco, c'est une équipe aussi qui va compter des absents. Alors bien sûr, il y a les absents habituels comme Mbolo et Caio Henrique, qui sont des absents à long terme. On a aussi Matadzo qui est blessé. En termes d'absents liés à la sélection, on va avoir Singo, Salisu, Jacobs, Camara, Diatta et Minamino. Et enfin, on a le retour de Elies Benseguir. Alors, Monaco est peut-être moins impactée. Elle a peut-être peut-être garder une structure, une ossature un peu plus solide que le Stade de Reims. Mais au-delà de ça, est-ce que ce match-là pour Monaco, c'est un match facile, donc un match parfait pour reprendre le début de saison après cette victoire difficile face au FC Lens, mais ça reste une victoire. Ou alors c'est complètement le match piège où justement prendre de haut cette équipe de Reims et se voir perdre ce match, voir un match nul. Toi Maxime, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Monaco? Qu'est-ce que tu t'attends à un match facile ou au match piège?
Il n'y a pas de match facile. Ça serait dévaloriser l'adversaire, même si Reims est affaibli. Ça reste une équipe qui a des qualités, donc il faut que Monaco joue le match. C'est ce qu'ils feront, hein, en étant vraiment sérieux et en prenant Reims au sérieux. Donc après, je pense que Monaco a les arguments pour battre Reims, parce que bon, il y a quand même un peu moins de départs à la CAN. Et en coupe d'Asie, mais c'est vrai qu'il y a du banc, il y a eu la recrue, il y a Kerrer qui est arrivé, donc c'est vrai que quand on perd Essingo et Salisu, ça fait quand même deux joueurs, deux arrières centraux qui partent, mais c'est vrai que le fait de récupérer Kerrer, ça permet quand même d'avoir et Maripane et Magassa et Zakaria et Kerrer qui peut jouer dans l'axe. Donc ça permet quand même à Monaco d'avoir une ossature et une équipe qui a la capacité de battre Reims et qui, je pense, va le faire. Mais c'est vrai que voilà, faut quand même prendre le match au sérieux et respecter l'adversaire, parce qu'il n'y a pas de match facile.
Toi, Alex, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Match facile, match piège, ou voilà, dis-nous tout.
Moi, je vais rebondir sur leur dernier match de Monaco contre Lens, où justement, en 10 minutes, c'était, ils marquaient deux buts, ils menaient 2-0, et c'était le match facile pour eux, et finalement, ils ont quand même réussi à se tirer une balle dans le pied, et être emmenés jusqu'au péno. Donc voilà, je pense que Monaco ne peut pas partir contre Reims en se disant qu'on est meilleur qu'eux, que ça va être un match facile, ce sera simple, etc., parce que la preuve, ça leur va pas de faire ça. Je pense que Monaco arrivera quand même, enfin Hutter arrivera quand même à remobiliser ses troupes, et que contre Reims, ça devrait passer sans caractériser ça comme un match facile. Ils vont jouer leur football, et puis leur domination va se montrer sur le terrain, et ça va passer. Normalement, ça devrait passer.
Du coup, est-ce que aussi tous ces départs, donc notamment le départ de Minamino pour la Coupe d'Asie, est-ce que c'est pas quelque chose de positif pour un joueur comme Wissam Ben Yedder? On sait qu'il a du mal à être titulaire, Balogun était quand même privilégié sur les derniers matchs. On sait que c'est quelqu'un qui a marqué contre Lens, hein. Ils ont marqué en 40 secondes, je crois, ou 45 secondes, en moins d'une minute. En Coupe de France, Wissam Ben Yedder, ça reste au final un joueur assez important, puisque il a mis 8 buts sur les 33 buts de l'AS Monaco, hein, donc on est quasiment à 25% des buts mis de l'AS Monaco. Est-ce que justement cette période-là, ça va permettre à ce Wissam Ben Yedder, peut-être aussi de s'imposer dans cette attaque? Ou alors l'idée de Hutter, il a son idée en place, il a son trio, ça bougera pas, et Wissam, je dirais pas que c'est le remplaçant ni un remplaçant de luxe, mais il fait partie de cette rotation. Maxime?
Après, c'est vrai qu'on a rarement vu et Balogun et Ben Yedder dans le même 11 de départ, donc ça va vraiment dépendre de la philosophie du coach. Là, c'est vrai que sur le dernier match en Coupe de France, il les a mis tous les deux. Ben Yedder marque. Après, j'ai pas vu le match, donc je sais pas s'il y avait des automatismes entre les deux ou pas. Mais il y a cette possibilité-là de les mettre. C'est pas souvent ce qu'il fait. Avec les départs à la CAN, comme tu l'as dit, notamment de Minamino, ça enlève peut-être, et aussi le départ de d'autres joueurs, ça enlève peut-être cette possibilité de jouer avec les deux 10 qu'il avait l'habitude quand il faisait Et par exemple, Akliouche avec Minamino, il aura plus cette possibilité-là de mettre ses 2-10, sauf s'il en prend un autre, mais il n'aura plus cette possibilité et donc va peut-être laisser sa chance à Ben Yedder, mais dans un autre système de jeu. Donc tout va vraiment dépendre de quel système il privilégie on va dire sur ce mois-là, parce que c'est vrai qu'il va devoir faire normalement avec minimum un mois avec des joueurs en moins, donc à voir ce qu'il va privilégier, mais il a quand même rarement mis les deux ensemble.
Ouais, clairement, on a rarement vu les deux ensemble. Hein. C'était souvent soit l'un, soit l'autre, ou alors c'est l'un qui rentrait en cours de match avec l'autre, ou pour remplacer l'autre. Après, c'est vrai que dans sa logique, comme tu le dis, de jouer avec 2-10, donc notamment Golovin-Minamino, il n'y a pas de logique de mettre Ben Yedder, même si pour moi c'est un joueur assez complet qui peut faire ce genre de choses. Ben Yedder, toi Alex, tu t'attends, voilà, on a parlé des absences à Monaco, tu t'attends à quoi comme compo, enfin surtout qu'est-ce que tu t'attends, qu'est-ce que t'attends comme animation de jeu monégasque avec cette absence de Minamino et bah sans doute cette titularisation soit de Akliouche, soit de Ben Yedder en attaque.
Moi, c'est surtout Akliouche qui m'a impressionné contre Lens. Franchement, il était sur toutes les actions. C'est lui qui menait l'équipe, alors que c'est pas forcément lui le plus expérimenté. Et donc, j'attends, voilà, sur ce mois-ci de le voir jouer beaucoup plus, de pouvoir, enfin oui, de le voir pouvoir s'exprimer et puis voilà, de gérer le jeu monégasque. Et justement, comme vous disiez, d'essayer de voir une potentielle collaboration entre Ben Yedder et Balogun, parce que, ayant vu le match il y a quelques jours, il n'y en avait presque pas de collaboration. Il faut que, même si Hütter ne travaille jamais avec deux pointes dans ce genre-là, pendant ces 2 mois, il va falloir trouver un substitut, justement, soit l'impasse sur l'aile, enfin Balogun surtout, parce que Ben Yedder aura un peu moins de vitesse, mais voilà, faut qu'ils apprennent à jouer ensemble, en fait. Ils peuvent pas se passer soit de l'un, soit de l'autre, techniquement, vu le gabarit, vu le, oui, voilà, vu les personnalités, les caractères qu'ils ont tous les deux. Et surtout les
Ils peuvent
millions.
s'en passer quand même, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même bien classés et en ayant quand même rarement mis les deux ensemble. Donc c'est
Oui,
vraiment
pour l'équipe, mais
ni l'un ni
après,
l'autre.
ils perdront l'un ou l'autre l'été prochain, parce que ni l'un ni l'autre n'accepterait d'être sur le banc, je pense, sur le long terme. Après, c'est mon opinion, mais Balogun, je pense pas qu'il soit venu à Monaco pour cirer le banc, et Ben Yedder, ça fait quelques années qu'il est indiscutable à Monaco, et je pense pas que ça le ferait kiffer de voir un petit jeune prendre sa place qui ne marque pas.
Moi, je trouve que Ben Yedder a pas tout le temps été titulaire indiscutable, justement. Je trouve que il a souvent été relayé vraiment sur le banc. Et il a eu au tout début, bien sûr, des périodes où il était indiscutable. Mais au fur et à mesure du temps, je l'ai trouvé de plus en plus sur le banc. Et il rentrait, il marquait. Il a toujours fait des saisons où, à chaque fois qu'il rentrait, à chaque fois il marquait. Et il a fait quelques titularisations, bien sûr. Mais je trouve qu'il a souvent, malheureusement pour lui, ce qui est dommage parce qu'il est vraiment très décisif. Il a souvent été mis de côté parce que c'était quand même le capitaine. Et au moment où c'était Axel Disasi qui était là, c'était souvent Disasi le capitaine, alors que c'était Ben Yedder le capitaine numéro 1. Et on voyait souvent Disasi redonner le brassard, pardon, à Ben Yedder quand il rentrait. Et ça s'est souvent vu sur les dernières années.
Ouais. Ok.
C'est vrai, c'est vrai.
Du coup, en termes de compo, qu'est-ce qu'on s'attend du côté de Monaco? Est-ce on doit s'attendre à une réplique du match face à Lens en Coupe de France? Donc, pour rappel, en Coupe de France, on avait Kerrer, Maripane, Magassa. Donc, on sait que Magassa est potentiellement sur le départ. Au milieu, on avait Ouattara, Zakaria, Fofana et Vanderson, avec Akliouche en 10, Balogun, Ben Yedder. Est-ce on doit s'attendre à la même chose pour le match de vendredi, Maxime?
Ben moi, je pense pas. Je pense que, en fait, là, il y avait Golovin qui était suspendu pour le match contre Lens. Et comme il a l'habitude de jouer avec ses 2-10, moi je le vois malheureusement, hein, soit enlever Balogun, soit enlever Ben Yedder, et nous remettre ses 2-10 avec cette fois-ci Akliouche Golovin, et non pas Golovin avec Minamino qui justement est parti. Donc je vois plus les 2-10 pour revenir à son système classique, et soit Balogun, soit Ben Yedder sur le banc. Et pour le reste, ça va être du classique, c'est ça. Après Magasa, je le vois lui faire confiance quand même, parce que c'est vrai que sur le banc, autrement, il reste Matsima, mais Matsima n'a quasiment pas joué, malheureusement pour lui, depuis le début de saison. Et autrement, pour le reste, je vois pas changer ni Zakaria ni Fofana. Vanderson fait le travail sur le côté droit. Ouattara va devoir le faire sur le côté gauche, parce que dans tous les cas, Jacobs n'est pas là. Donc voilà, pour moi ça va être cette composition, mais avec les 2-10, et donc soit Balogun soit Ben Yedder sur le banc, et le retour de Golovin.
Toi, Alex, tu t'attends à la même chose? T'as des modifications? Tu penses à autre chose?
Plus ou moins la même chose, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres options. Golovin revient et il mérite sa place, donc faut bien que quelqu'un souffre de ce retour, et donc voilà, quelqu'un va être remplacé. Mais je voulais parler aussi rapidement peut-être d'un autre joueur dont on parle rarement, c'est Boadu, parce qu'en soi, il propose pas forcément les matchs, etc., qu'on attendait de lui, les prestations qu'on attendait de lui, mais c'est vrai qu'il est quand même toujours là, et puis ça reste un joueur qui est pas mauvais, qui a des qualités, qui a beaucoup de qualités, il faut juste qu'il soit en confiance. Et pourquoi pas aussi le revoir un jour, peut-être pas ce week-end directement, mais le revoir prendre un peu plus de place sur le fond de l'attaque ou sur l'aile, ça pourrait être pas mal aussi. Je sais pas
Ouais,
ce que t'en
d'ailleurs,
penses.
il rentre, il me semble qu'il rentre contre Lens. Je sais plus qui
Ouais,
remplace, mais il me semble qu'il est
c'est
rentré
ça.
contre Lens. Bon, après, il rentre dans la mauvaise période monégasque, hein, parce que la deuxième période monégasque, elle a été assez compliquée, hein. Lens a été très bon en deuxième période. Mais c'est vrai que c'est une possibilité. Alors, moi, je suis d'accord, avec Maxime, hein, je le vois pas titulaire. Je pense que devant, les places sont quand même très très chères, et avec ce qu'a fait, bon, certes Minamino est absent, mais ce que fait Akliouche et ce que fait Golovin depuis le début de la saison, ça va être assez dur de déloger un des deux. Et en pointe, t'as Balogun Ben Yedder qui se tape pour un poste. Compliqué.
C'est
Le
ça,
voir
c'est
rentrer, ça serait sympa,
exactement.
mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
C'est que s'il joue avec et Balogun et Ben Yedder, il y a de fortes chances de le voir rentrer, parce que bah, à un moment il va vouloir en faire sortir ou l'un ou l'autre, ou peut-être même les deux. Mais c'est vrai que s'il joue à une pointe, j'ai du mal à le voir rentrer, parce que ou alors pas à son poste. Mais sinon j'ai du mal à le voir rentrer, parce que il va soit faire rentrer Ben Yedder pour Balogun ou l'inverse. Et donc pour Boadu, bah, quand on joue à une pointe, étant donné que c'est le troisième attaquant, bah, il y a peu de chances de devoir jouer, sauf s'il joue pas à son poste. Et donc là, dans ce cas-là, il y aura cette possibilité, parce qu'il y a eu tous ces départs à la CAN et à la Coupe d'Asie, ce qui permettra d'avoir peut-être des possibilités en fonction du dispositif choisi par le coach.
Du coup, on enchaîne, enfin en tout cas, on finit sur vos pronos. Quel score vous voyez? Si vous avez des buteurs, on vous écoute. Alex, ton prono pour ce match?
Ouais, je vois 3-0
Ouf.
avec Balogun. Ouais, je sais. Avec
Et ça
Balogun.
commence son analyse en disant non, ça va pas être un match facile, hein, 3-0.
Mais justement, il faut pas qu'il prenne ça pour un match facile. Et après, ça va partir, ça va dérouler. Si, oui, si, oui, ils prennent ça pour un match facile, oui, ça va pas faire 3-0. Mais bon, oui, je vois 3-0 quand même, avec Ben Yedder, Balogun et un petit défenseur de la tête, peut-être Maripane pour son potentiel départ.
Ok. Et toi, Max?
Mais j'aurais bien dit 3-0 aussi, mais bon, allez, je vais changer. Moi, je vais mettre 2 dans ce cas-là. On va pas mettre les mêmes scores. Mais je mettrais 2-0 avec et un but de Ben Yedder et un but de Vanderson.
Ok, pas mal du tout. Moi, je vais vous suivre sur l'analyse, forcément. Hein, je vois Monaco gagnant, mais je pense que Monaco va prendre quand même un but, hein, parce que c'est quand même une défense qui se connaît pas trop. Hein. Il y a des nouveaux joueurs, des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, Kerrer qui est arrivé. Donc, je verrais bien un petit 3-1, 3-1 Monaco, ouais. 3-1 Monaco. Ok messieurs,
C'est
parfait,
pour
on
les
va passer
buteurs,
aux
Destin.
les buteurs. Ouh, pas facile. Bah déjà en buteur Darami côté Rémois. Je pense que ouais, je pense que les buteurs ce serait ouais, je vois Darami et après partant du principe qu'il joue avec une pointe donc Balogun en pointe, je vois bien un but d'Akliouche, Akliouche-Golovin sûr. Par contre, moi, je verrais bien un petit but des latéraux ou de. Allez, non. Je vois bien une petite frappe de Fofana. Ouais, un petit but de petite frappe de Fofana des familles 25-30 mètres comme il faut ras du sol. Ouais. Allez, Inch'Allah. on va passer au match suivant. Maintenant, on va parler de Lens et du PSG. Alors, Lens et le PSG, c'est quand même deux équipes qui gagnent, mais qui ne connaissent pas forcément la même forme. Alors, certes, Lens, on se souvient, avait perdu contre le PSG au mois d'août. Une victoire assez, alors pas large puisque ça reste quand même 3-1, mais quand même assez net du PSG hein, qui avait joué un beau jeu même si Lens avait essayé de s'était repris en deuxième mi-temps. Aujourd'hui, Lens est une équipe qui est remontée dans le classement, qui est actuellement septième, hein, qui est très mal commencé mais qui remonte dans le classement, qui a enchaîné beaucoup de victoires. Elle a perdu contre Nice à la 17e journée, mais avant ça, elle était quand même sur une bonne dynamique hein, puisque sur les 6 derniers matchs c'était 4 victoires, un nul et une défaite. Et en face on a le PSG qui est premier du championnat, qui est sur une très grosse dynamique hein. Donc sur les 6 derniers matchs c'est quand même 5 victoires et un nul. Lens qui a été éliminé en Coupe de France après une séance de pénalty assez incroyable face à Monaco, tandis que le PSG a déroulé face à Revel 9-0. Le PSG qui a aussi gagné face à Toulouse pour le trophée des champions. Bon, bref, on a une équipe quand même parisienne qui est en forme, certes, qui compte aussi, elle, quelques absences, parce que en termes de blessures, déjà, on a, bah, Nuno Mendes, voilà, un blessé de long terme, et Presnes Kimpembe, pardon, deux blessés de long terme. On a Tenas qui est blessé à l'épaule, Skriniar à la cheville, sans doute une grosse absence. On n'est rien de définitif pour l'instant. On a Fabian Ruiz et Lucas Hernandez qui sont incertains, donc on ne sait pas s'ils seront présents. Enfin, Fabian Ruiz qui est en phase de reprise, qui s'était fait une luxation de l'épaule, et Hernandez qui serait malade. Et en termes d'absents, au-delà de Sergio Rico qui est toujours blessé, on a Hakimi et Kangin qui sont en sélection. On va commencer du coup avec. On va aussi parler du FC Lens hein, au niveau absent. Il y a beaucoup d'absents aussi du côté du FC Lens. Donc on a du Aïdara, Machado, Cabo qui sont blessés, Gradit qui serait incertain avec une blessure au mollet. En termes de départ en sélection, on en a beaucoup aussi. On a Kouzanov, on a Samed, on a Nempalis Mendy, on a Guilavogui, on a Oscar Cortés. Mais par contre, on a le retour de Denso. On va commencer avec le FC Lens parce que c'est l'équipe qui reçoit. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le RC Lens a le niveau pour poser des problèmes à ce PSG? Je vais commencer avec toi, Maxime. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Je dirais que je suis un peu déçu de la saison de Lens comparée à la saison dernière. Après, bon, c'est vrai que la saison dernière, c'était, on va dire, une saison exceptionnelle pour Lens. Donc, c'est compliqué quand ils perdent des joueurs majeurs. Donc, Lens peut poser des problèmes à beaucoup de clubs de Ligue 1. Après, en créer à Paris, c'est souvent compliqué. ils ont cette capacité parce que Paris, ça va dépendre de comment ils le jouent. Ils ont quand même pas mal perdu et ils font souvent des matchs qui sont pas forcément les mieux à chaque fois. Donc Lens a cette possibilité de pouvoir créer des problèmes, mais c'est toujours compliqué de jouer Paris. Donc je pense que ça va quand même être compliqué de jouer le Paris Saint-Germain pour le RC Lens.
Toi, Alex, même question. Est-ce que tu penses que ce RC Lens, au vu des dernières prestations de ce début de saison, peut poser des problèmes à ce PSG?
Alors, de base, j'allais dire non, mais après le match de la semaine dernière contre Monaco et la hargne que j'ai vue chez tous les joueurs, et aussi le Stade Bollard qui est en feu, et voilà, toutes ces petites choses individuelles qui tout ensemble peut faire que Lens est une équipe très compliquée à battre, enfin assez compliquée à battre quand ils sont à domicile. Je pense que en plus de ça, ils vont vouloir se relever après cette désillusion en tir au but. Je pense pas que cette défaite les ait complètement achevés. Voilà, par rapport au début de saison qui était catastrophique, etc. Mais je pense que ça va les faire vouloir montrer qu'ils savent rugir, etc. Donc pourquoi pas poser un peu de problème au PSG. Après, je dis pas que le PSG ne saura pas répondre. Ça, ouais, ça, on connaît toutes les qualités du PSG, même sans les quelques joueurs qui sont partis en sélection.
Bah, c'est vrai qu'il y a un point que tu notes qui est assez intéressant, c'est que Lens, ils ont quand même une volonté de gagner, une rage de vaincre qui est assez incroyable. Parmi toutes les équipes de Ligue 1, il y en a peu qui ont cette cohésion aussi d'équipe, d'y aller tous ensemble, hein. Et puis on le voit, c'est tenu par des anciens, hein, quand tu vois ce que Sotoka a fait pendant ce match-là, ou encore même des plus jeunes qui suivent le mouvement, hein, comme El Aïnaoui, hein, mon petit chouchou. Et puis le public lensois. Aujourd'hui, le public lensois, je pense que, alors, on a tendance à en faire trop en disant que ça datait d'une autre époque, mais pour moi, le public lensois, c'est vraiment ce 12e homme, parce qu'aller jouer là-bas, c'est juste incroyable. Les mecs vont porter leur équipe pendant 90 minutes sans s'arrêter un peu. Ils peuvent être menés 7-0, que le public continuera encore à chanter, à les supporter. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. Après, moi, là où...
Surtout si je peux ajouter...
Ouais, vas-y, je t'écoute.
Si je peux juste ajouter une petite chose, le public chantait et criait, chantait encore plus fort juste après le 2-0 qu'avant le match. Ouais. Donc même quand ils sont en train de perdre, ils ont vu Lens, leur équipe, ne rien faire pendant 20 minutes, se prendre deux buts complètement débiles, on peut le dire. c'est là qu'ils poussent encore plus, et c'est justement ça qui fait leur force aussi, je pense. Ouais, je vous laisse continuer.
Ouais, et puis moi, ce que je voulais enchaîner, c'est que cet aspect-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, moi, là, ce qui me pose problème du côté lensois, et c'est vrai qu'il me déçoit, c'est d'un point de vue offensif, c'est encore, c'est pas ça. Aujourd'hui, le meilleur buteur du RC Lens, c'est quand même Wesley Sneijder, si je me trompe pas, qui n'est même pas titulaire, c'est même pas l'attaquant titulaire au RC Lens. Derrière, t'as avec 4 buts, derrière t'as Machado avec 3 buts, Sotoka 3 buts, Wai 2 buts, sachant que Wai c'est l'attaquant principal du RC Lens, avoir ton attaquant qui n'a mis que 2 buts, ça reste quand même assez faible, même s'ils se sont créés pas mal d'occasions face à Monaco, mais bon, se créer des occasions, c'est bien, mais marquer, c'est encore mieux. Est-ce que aujourd'hui, en tout cas, toi, Maxime, quelle solution tu verrais offensivement pour que ce RC Lens pose des problèmes au PSG? Bon, alors, t'es pas le coach du RC Lens, hein, mais au vu de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont et des absences, comment tu pourrais imaginer que le RC Lens puisse poser des problèmes à ce PSG?
Je trouve que déjà, il y a un banc au RC Lens, offensivement parlant. Il y a quand même pas mal de joueurs qui peuvent rentrer et faire des différences. Je pense à Wai qui est quand même un joueur qui est capable de mettre des buts, à Sotoka qui est toujours présent. Il y a également Fulgini, Thomasson qui sont capables, et Saïd. Bon, il y a aussi le petit David Costa qui sont capables de faire des différences de manière individuelle et collectivement parlant, quand ceux-là peuvent bien s'entendre, ça peut fonctionner, ça peut scorer, je pense. Donc, il y a quand même pas mal de joueurs et sur le terrain et sur le banc qui peuvent faire la différence. Donc, maintenant, faut mettre ça en place. Et on va dire qu'il y en aura trois titulaires, trois sur le banc prêts à rentrer et justement essayer de faire des différences pour inquiéter un petit peu le Paris Saint-Germain.
Toi, Alex, comment tu penses que ce RC Lens pourrait poser problème au PSG? Alors, c'est vrai que beaucoup d'équipes ont tendance à mettre en place une compo spéciale PSG. On a vu que Lens, au match aller, ils n'ont pas vraiment voulu mettre une compo spéciale PSG. Ils ont voulu jouer leur jeu comme ils le font d'habitude ou comme on l'a vu dans les années précédentes. Ça a marché, ils ont posé des problèmes au PSG. On a vu que là, très vite, au match aller, ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient, ils ont dû s'adapter. Est-ce que toi, tu penses qu'ils doivent rester dans leur logique? On joue notre jeu avec notre pressing et on va réussir à peser sur cette équipe, ou vraiment trouver, s'adapter comme l'ensemble, enfin en tout cas comme beaucoup d'équipes que le PSG a pu rencontrer, avoir un jeu peut-être plus défensif, mais du coup, ça serait se renier un peu du côté du RC Lens. Quel est ton avis, toi, sur cette question?
Moi, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas que Lens renie ses traditions et sa vocation plutôt offensive et de pressing. Déjà parce que ce serait dommage. Après, c'est vrai qu'ils en font peut-être un peu trop. Contre Monaco, il y a eu tellement d'occasions, enfin tellement de moments dans le match où voilà, justement, ils étaient 9 en attaque et il ne restait plus personne derrière. Et après, c'est seulement parce que Monaco, voilà, comme je disais tout à l'heure, la collaboration entre Ben Yedder et comment il s'appelle, Balogun ne marchait pas complètement. C'est seulement grâce à ça, en fait, que Monaco a pas pris le large très rapidement dans le match. Enfin, encore plus le large, parce qu'après 2-0, c'est déjà assez large. Et après, mon deuxième argument, c'est surtout contre Paris. Je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas se mettre à 10 derrière et garer le bus, parce qu'en soi, ça ne marche pas. 90% du temps, ça n'a pas marché. Mbappé sortira toujours de son fauteuil pour aller marquer un but qu'il aura créé lui-même en dribblant 5 joueurs. Donc voilà, face à toutes ces stars, face à toute cette animation offensive, c'est très compliqué de rester pendant 90, 95 minutes à 10 derrière, à tout blinder, parce que tu sais que sur une petite erreur, en fait, tu peux te prendre un but et après, tu ne peux pas revenir. Si pendant 90 minutes, tu n'as pas attaqué, tu ne peux pas te mettre à attaquer d'un coup et espérer marquer un but pour égaliser. Donc voilà, je pense qu'il faut que Lens continue d'essayer de placer son jeu. Voilà, encore une fois, peut-être avec un petit peu plus de légèreté, on va dire, qui partent pas tous en attaque, parce que voilà, encore une fois, derrière, en contre-attaque, t'as Mbappé, tu lui donnes le ballon, et puis même s'il est au milieu de
Et
terrain, il
puis,
ira au but, et puis ouais, voilà, punition obligée.
Ok.
Donc voilà,
Je
c'est comme ça que je
te
pense.
pose la, je te pose la question à toi aussi, Max. Est-ce que tu penses qu'il faut une compo spéciale PSG ou Lens doit rester fidèle à ses idées?
Je pense que Lens doit rester fidèle. On le voit, PSG, ils ont déjà perdu des matchs, ils ont fait des matchs nuls, beaucoup de matchs nuls, 4 matchs nuls cette saison. Donc il y a la possibilité de pouvoir leur faire mal si vraiment on veut le faire. Donc ils doivent jouer leur jeu et non pas s'adapter entre guillemets et avoir peur du PSG.
Okay. Du coup, ça va nous permettre d'enchaîner sur le stade, enfin, pardon, sur le PSG. Comme on l'a dit, hein, le PSG qui est aujourd'hui dans une dynamique très positive, hein, qui a commencé son année avec 2 victoires. À quoi doit-on s'attendre avec ce PSG-là? Est-ce qu'on doit s'attendre encore à une bizarrerie de Luis Enrique en plaçant des joueurs un peu partout où il veut? On voit que Hakimi sera absent, Hernandez, on ne sait pas s'il est présent. En défense centrale, il a perdu Skriniar, mais il est arrivé de Beraldo, qui est tout nouveau. Kangin, qui part aussi en Coupe d'Asie. À quel type de compo doit-on s'attendre du PSG face à une équipe qui sans doute va les presser très très fort, si on part du principe que leur excellence va rester fidèle? À quoi doit-on s'attendre en termes de compo du côté du PSG? On va commencer par toi, Alex. T'es toujours avec nous, Alex?
Je suis là, ça coupe un peu, mais je suis là.
Ok, donc
J'ai entendu la question en tout cas.
nice.
Alors, moi j'ai envie de voir Luis Enrique rebondir sur ce qu'il a fait contre Revel. Et par ce qu'il a fait, je veux dire faire jouer Ethan Mbappé. J'aime bien le voir, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait plaisir de voir les deux Mbappé jouer ensemble. Après, pour la compo, voilà, je pense que je pense pas qu'il devrait changer grand-chose parce qu'il n'a pas forcément, il n'aurait pas forcément de raison à tout changer pour la reprise de la Liga. Donc, moi, je m'attends surtout à avoir le même PSG, même sur les ceux qui sont partis à la Coupe d'Asie et la CAN, mais voilà, le même style d'équipe qui repart à l'offensive, qui joue, qui crée de l'animation. Voilà, avec peut-être Barcola titulaire encore, comme contre Toulouse en début d'année. Bien sûr, Mbappé, et puis peut-être Ethan qui rentre en fin de match au milieu. Pareil, on va faire confiance aux jeunes encore, avec Zaïre, avec ceux qui performent déjà, Vitinha, etc. Et en défense, oui. En défense, en fait, le départ de Skriniar à la pas à la CAN, pardon. Le fait que Skriniar soit absent, ça me fait penser que c'est la parfaite occasion de voir Mukiele jouer. Sauf que j'arrête pas de voir qu'il est en instance de départ peut-être au Bayern. Donc ça m'en, c'est pas que ça me rend triste, mais ce serait dommage en fait de perdre Mukiele aujourd'hui.
Bah, surtout que le fait que Hakimi soit pas là, ça reste quand même l'occasion de voir Mukiele soit jouer à droite, donc une
Oui,
position qu'il
voilà,
connaît, c'est
exactement.
pas sa position préférentielle mais qu'il connaît, ou soit en défense centrale, une position qu'il connaît beaucoup mieux puisque pour l'instant il a un peu baladé surtout arrière gauche, donc on sait que c'est un surtout que c'est un droitier, donc on peut connaître la difficulté que c'est pour un droitier de jouer à gauche et d'être voilà un peu d'être dos au jeu désaxé. Et c'est vrai que ce serait aussi l'occasion bah voilà d'avoir ces deux latéraux, deux vrais latéraux, que ce soit Hernandez et Mukiele chacun de leur côté, si Hernandez n'est pas malade, n'est pas de revoir encore un Soler de nouveau à droite. Toi Maxime, tu t'attends quel type de PSG pour ce match face à Lens, encore une fois face à un Lens qui presse beaucoup. Est-ce que par exemple tu verrais, est-ce que titulariser un Ougarté par exemple face à ce Lens, c'est une bonne idée?
Je le verrais un peu en 4-3-3. 4-3-3 avec justement Marquinhos dans l'axe avec Danilo. Et pourquoi pas Mouquier donc sur le côté droit et Hernandez sur le côté gauche. Et pour avoir vraiment de la densité au milieu de terrain. Et de la densité au milieu de terrain avec notamment Zaïre Emery, Vitinha et Ugarte. Parce que c'est vrai qu'entre guillemets, des fois, il est passé à 3 derrière. Le fait d'avoir Ugarte vraiment en milieu vraiment défensif va permettre de libérer des fois les centraux pour le faire redescendre au moment de la possession de balle. Donc, je verrai Ugarte jouer, d'autant plus que Lee ne sera pas là. Donc, comme il sera pas là, c'est vrai que ça laissera de la place justement à Ugarte. Plutôt qu'un Asensio qui pourrait à la limite jouer au milieu de terrain offensif et ce qui ferait justement que Zaïre Emery aurait une place vraiment vraiment défensive au milieu de terrain.
Au niveau de l'attaque, Alex t'en parlait un peu. Voilà, ce serait sympa de. Ben, on voit qu'un Barcola prend de plus en plus de place sur ce côté gauche dans le système de Luis Enrique. On sait qu'on a toujours cet Mbappé dépendance en attaque. Hein, Mbappé, c'est quand même 43% des buts du PSG. Hein, donc en Ligue 1, il en a mis 18 sur les 42 mis par le PSG, ce qui est énorme. Est-ce que c'est l'année, enfin en tout cas, est-ce qu'on peut s'attendre à voir un Kolo Muani et un Ramos, bah, soit commencer le match, mais surtout faire une deuxième partie de saison un peu meilleure, hein, puisqu'on a vu que Ramos était souvent mis sur le banc ces derniers temps, que Luis Enrique bah, appréciait de moins, en tout cas, ce qu'on peut supposer, hein, c'est qu'il apprécie de moins en moins son jeu. Ou est-ce qu'il faut s'attendre à une attaque classique, c'est-à-dire Barcola, Mbappé, Dembélé, comme on a pu le voir, quelque chose qui fonctionne déjà un peu mieux. Vous, en termes d'attaque, enfin en tout cas surtout toi Maxime, hein, puisque Alex, toi t'en as parlé, qui est-ce que tu vois devant? Surtout si tu pars sur un 4-3-3, tu vois qui est les trois devant?
Moi, je verrais Dembélé sur le côté droit. Je préfère Mbappé à gauche. Après, c'est personnel. Je préfère Mbappé à gauche et justement essayer de encore donner sa chance à Kolo Muani. Donc, je la verrais plutôt comme ça, quitte à basculer pendant le match avec faire rentrer Barcola pour sortir Kolo Muani s'il est encore malheureusement une fois pas forcément très bon et rebasculer Mbappé dans l'axe en cours de match. Mais je la verrais comme ça, avec Mbappé à gauche, Kolo Muani dans l'axe et Dembélé à droite. Une attaque 100% française. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs cette fois de l'équipe de France au PSG. Et ça fait plaisir à voir.
Donc toi plutôt Kolo Muani qu'à Ramos.
Plutôt Kolo Muani, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, on voit souvent Ramos sur le banc. Il a souvent fait confiance à Kolo Muani, sachant qu'il est malheureusement pas forcément très décisif pour lui et qu'il reçoit beaucoup de critiques. Mais je lui vois encore lui faire confiance pendant quelques matchs pour essayer de le mettre en jambe parce que la saison est longue et qu'un Kolo Muani qui peut être en forme pourra rapporter pas mal de points sur cette saison pour le PSG.
Ok. Toi, Alex, ton trio d'attaquants, tu l'as un peu mentionné. Tu partirais quoi?
Et surtout préparer
Barcola,
l'euro.
et surtout préparer
Mais en
l'Euro.
fait, ouais, Barcola à gauche. Ah, je crois qu'on a un petit décalage. Ça doit venir de moi, mais pour répondre à ta question, je verrais beaucoup Barcola à gauche, Mbappé en pointe, parce que j'ai l'impression que Luis Enrique aime bien le mettre en pointe. Et à droite, bon, bien sûr, il y a Dembélé. Et j'aime beaucoup Dembélé, mais j'aime aussi beaucoup Asensio et j'aime beaucoup le voir sur l'aile. Je sais qu'il n'a pas forcément la même vitesse, les mêmes atouts, etc. Mais je le préfère sur l'aile qu'en milieu offensif. Enfin, surtout dans un système de 4-3-3, en fait, où il n'y a pas de vrai 10. Voilà, je préfère voir Asensio sur le côté droit, avec sa petite patte gauche qui peut rentrer dans la surface et caler des grosses frappes, des grosses enroulées magnifiques comme il sait faire.
C'est vrai qu'on ne parle pas de Asensio, mais Asensio, c'est quand même un joueur qui s'est montré être assez complémentaire avec Mbappé, puisque c'est un joueur qui arrivait à décrocher, orienter le jeu, créer des décalages, jouer rapidement avec les attaquants. Il a été blessé, donc malheureusement, on n'a pas pu en profiter assez, mais Asensio, on n'en a pas parlé, mais ça peut être une possibilité, en effet, ouais. Ah,
C'est un bon joueur. C'est vrai que moi j'étais au match face à Toulouse, Paris-Toulouse, de Trophée des Champions. Et c'est vrai qu'il y a cette complémentarité. Comme tu l'as dit, Alex, c'est que Mbappé dans l'axe, le coach l'aime bien. Donc il y a cette possibilité. Et le fait de voir Asensio qui peut clairement être un concurrent direct de Dembélé. Mais c'est vrai que dans des gros clubs, il faut cette concurrence directe pour justement performer au maximum.
Ouais, c'était contre Lyon, il me semble qu'il avait fait un très beau match. Qu'il avait fait un très très beau match. Ouais, il me semble que c'était contre Lyon. Hein. Ok. Du coup, vos pronos pour ce Lens PSG. Max, je te lance. Qu'est-ce que tu vois comme score buteur?
Je dirais
C'est pas facile. Hein.
il n'est pas simple ce match. Il n'est pas simple et je dirais un 2-1 PSG. 2-1 PSG avec un but de Mbappé et un but de Vitinha. Et pour Lens, Je vais dire un buteur qui me ferait plaisir, un petit but de Thomas. Là, je serais content.
Ouais, ok. Ok, pas mal. Alex.
Je suis Maxime sur le but de Thomasson, mais j'en rajoute un pour Lens, on va dire, de Wesley Saïd. Non, de Danso peut-être. Ouais, sur corner. Une belle tête foudroyante. Donc deux buts pour Lens, mais j'en vois trois pour Paris. Score final 3-2 avec des petits buts de Mbappé, Asensio et Zaïre.
Ok, pas mal du tout. C'est vrai que c'est pas un match facile, surtout que niveau Lensois, la compo, bon, on connaît à peu près la compo, mais en attaque, on peut très bien avoir du Fulgini, du Thomasson, du Wai, du Sotoka, du Seif. Enfin bref, il y a du choix, hein, comme on en a parlé. Mais le PSG va prendre un but sûr. Est-ce que le PSG va perdre? Je ne pense pas. Je les vois pas perdre à Lens. Moi, je verrai un match nul. Je vois un match nul, mais je vois un 2-2 avec un but parisien. Je vois Mbappé et je verrai bien Vitinha. Une belle petite frappe de Vitinha. Et côté Lensois, je vois Saïd marquer, s'il joue. Saïd marquer. Et je vois bien tête sur coup franc, corner, ouais, d'un défenseur genre Danso ou Medina. Mais Danso est quand même un peu plus expert dans la matière. Donc ouais, je verrais bien un petit but de Danso. Ouais, et le but de Saïd, ce serait une erreur de la défense, et vu que si lui c'est un petit filou, je le verrais bien.
Erreur de Gianluigi.
Ouais, c'est pas impossible ça. Il y en a une par match, donc c'est pas impossible.
On l'adore. On l'embrasse.
On l'embrasse, exactement.
Vous avez porté la poisse, le pauvre.
C'est la norme, tu vois, c'est un match, une boulette, c'est une classique, on l'attend en espérant que ça finisse pas en but, mais on sait qu'il y aura la petite boulette du match.
Il marque le match par son empreinte, voilà.
Ouais, s'il pouvait le marquer que de ses arrêts, ça m'irait, mais bon, il aime bien se faire remarquer. On va dire qu'il aime bien mettre de la difficulté, tu vois, parce qu'il trouve que le jeu est trop facile, donc il se dit, allez, on va se mettre un peu de difficulté.
Ouais, il doit se faire chier aussi tout seul dans les cages à Paris. Il voit personne parce que Paris ne fait qu'attaquer pendant tout le match.
ça doit être ça. Ok messieurs, maintenant on va enchaîner le tour des stades. Donc le tour des stades, pour voilà, comme je vous l'ai expliqué, on va discuter rapidement d'un peu tous les matchs de cette journée. Comme ça nous permet d'avoir une vision globale de notre journée de Ligue 1. Et on va commencer avec le premier match. Donc le premier match du vendredi, qui sera Marseille contre Strasbourg. Donc Marseille, qui est aussi une équipe qui a perdu beaucoup de joueurs avec la CAN, hein, rapidement. Donc on aura comme absent donc Simon, Gapon, Doué, Doumbé, Chancel Memba, Pape Gay, Ouaini, Harit, Ndiaye, Sarr. C'est quand même des joueurs assez importants, sachant que Rongier et Correa sont toujours blessés, mais il y a le retour de Lodi. Côté strasbourgeois, c'est que Sau qui est parti en sélection, mais on a des absents comme Fila, Motiba, Delaine, Emega et Aoulou qui sont blessés. Bien sûr, on compte l'arrivée côté marseillais d'un joueur, si je me trompe pas, c'est Onana. En milieu défensif. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce match et quel type de score vous attendez? Maxime, on va commencer par toi.
Comme tu l'as dit, il y aura beaucoup de joueurs absents côté Marseille. Alors pour Strasbourg, c'est Sau, c'est pas forcément dérangeant parce que c'est vrai qu'il a peu joué, le pauvre. Mais c'est vrai que le fait de pas avoir Harit, Ndiaye, Sarr, Unai Mbemba, ça va pas être simple pour Marseille. Ils ont quand même, ils jouent quand même au Vélodrome. Donc je verrais quand même une petite victoire, un but à zéro de Marseille, mais dans la douleur justement avec, avec tous ces changements et ces joueurs absents.
Ok. Sachant que, juste pour rappeler, j'ai oublié de te préciser, en termes de forme du moment, Marseille est sur 2 nuls, 4 victoires sur les 6 derniers matchs, tandis que Strasbourg est sur 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite, sachant qu'elle a enchaîné, elle est sur 3 victoires consécutives en Ligue 1. Alex, je te lance, toi, ce match, qu'est-ce que tu en penses en termes de jeu et de score? On a perdu Alex.
Il ne veut pas parler de Marseille, peut-être qu'il
C'est
a quelque chose
ça. En plus, il aime bien Strasbourg. Je crois qu'il a de la famille à Strasbourg et qu'il vit bien Strasbourg.
va être compliqué ouais, pour Marseille, mais bon, après, c'est vrai que Strasbourg est dans une bonne forme, donc bien
Ouais,
pour eux, mais.
c'est ça. Mais je pense que ouais, jouer au Vélodrome, moi je te suis un peu sur cette idée-là, dans le sens où même s'ils ont perdu, bah, c'est surtout des joueurs clés, hein, surtout c'est des joueurs clés en plus qui font maintenant partie du système Gattuso, hein, comme Harit, qui est devenu indispensable, ou Nahini. Mais je pense qu'à domicile, je verrais pas Marseille perdre. Enfin, ça m'étonnerait que Marseille perde à domicile. Contre Strasbourg. Donc ouais, je vois une petite victoire, un petit 1-0, surtout si Emega aussi est absent du côté strasbourgeois. Je vois une petite victoire marseillaise 1-0. On va aller sur le match suivant. Donc on a un autre match qui sera disputé le samedi, donc après celui de Monaco, donc Rennes-Nice, qui est pareil. On a 2 équipes qui sont est-ce qu'on peut dire 2 dynamiques différentes? Est-ce qu'on a ce niveau-là? Bon, je pense oui. Côté
T'as le
Rennes,
droit de le dire, tu peux, tu peux,
ouais.
tu peux. C'est même plus René que t'as pas le droit de détailler. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça.
Ok. Côté Rennes, bah Goury blessé. Apparemment, Assignon serait incertain, ou en sélection. On a le retour de Bourigeaud. Côté niçois, en absent, on aura Beka et Attal qui sont en sélection, comme Boudaoui, Boga et Mofi, qui a été appelé récemment en sélection. Incertain, on a Thuram, Bouhanani, blessé, donc après Diop Baldé blessé à long terme, Todibo suspendu, mais par contre on a le retour de Ndiachimié. Rennes, OGC Nice, voilà, comme tu dis, c'est 2 équipes sur 2 dynamiques différentes. Alors certes, Rennes a gagné son dernier match face à Clermont. Après, on parle de Clermont, du dernier du championnat. Mais voilà, Rennes, sur les 6 derniers matchs, c'est 3 défaites, 2 victoires, 1 nul, tandis que Nice ont quand même connu leurs 2 défaites lors des 4 dernières journées, mais ils sont sur 3 victoires, 2 défaites et 1 nul. Toi, de ce match, qu'est-ce que t'en attends, sachant que ça va jouer à Rennes en termes de jeu et en termes de score?
Ben, moi, je vais voir les rouges et noirs gagner. Sachant que les deux sont rouges et noirs, je parie sur
Exactement,
les rouges
j'allais dire ça, t'es vraiment un escroc.
Non, je verrai une victoire 2-0 de Nice avec un beau jeu niçois et une équipe de Rennes qui doute et qui va continuer de douter, je pense, avec un mercato qui peut valser dans tous les sens avec potentiellement des départs de toutes parts. Donc, il est possible que ça soit compliqué pour Rennes. Et donc, je verrai une victoire 2-0 de Nice en confiance malgré les petits départs à la CAN et les blessés et les absents pour Nice.
Ouais, parce qu'ils perdent quand même 2 gros attaquants, Boga et Mofi. C'était bah c'est les attaquants titulaires de Niçois et qui sont en forme. Bon, certes, t'as la Borde, mais tu perds quand même deux grosses têtes d'affiche de ton équipe. Toi, Alex, de ce match-là, t'en penses quoi en termes de jeu et en termes de score?
Je vais suivre Maxime. C'est pas que je suis contre Rennes, hein. Bien sûr que non.
Il est revenu pour payer Rennes. C'est ça,
t'as vu ça?
Exactement.
T'as vu ça?
Je remercie cette coïncidence. Non, mais c'est vrai que Rennes, dernièrement, n'arrive pas ou plus autant à forcer ou à imposer son jeu en Ligue 1. Après, en Europe, ça fonctionne et tant mieux. Mais contre Nice, qui ne joue que la Ligue 1, je pense que Nice, ils veulent forcément revenir vers les sommets qu'ils ont commencé à côtoyer depuis l'arrivée des actionnaires britanniques. Et je pense que voilà, malgré le départ de, enfin les départs de des sélections nationales avec Mofi, comme tu disais, et le fait que Diop soit blessé aussi. Malgré tout ça, je crois que Nice va faire ce qu'ils savent faire de mieux, ne pas prendre de but déjà. Donc je m'attends à soit un 0-0, soit un petit 1-0 pour Nice.
Ok.
Moi, je vous... Avec le départ, il y a quand même Mohamed Ali Chou qui arrive, donc il va apporter un poids offensivement parlant.
C'est vrai,
il est arrivé, j'avais pas vu.
Il est Chou qui est arrivé à la Sociedad pour 10 millions, ouais. Il me semble. Moi, je vais prendre un peu le contre-coup de ce que vous dites, et je pense que Rennes va gagner. Alors, sur une petite marge, style 2-1 ou 1-0. Mais quand je vois que, voilà, t'as Boga, Mofi qui sont absents, et surtout Todibo en défense, qui pour moi est l'une des pièces maîtresses de la défense niçoise, je suis pas confiant complètement pour Nice. Je pense que Rennes va gagner 2-1. Moi, c'est je me bouille. Match suivant, donc là on passe à dimanche 13h, Lille contre Lorient. Pareil, Lille-Lorient, hein, bon, je pense que c'est un match qui est quand même assez déséquilibré. Parce que forcément Lille est dans une dynamique qui est bien différente des Lorientais. Alors certes, Lille a perdu son dernier match face à Strasbourg, hein, mais Lille est quand même sur 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite, tandis que de l'autre côté, Lorient, c'est très compliqué, ils sont 17e, ils ont enchaîné 3 défaites de suite, donc ils sont sur les 6 derniers matchs, c'est 5 défaites et 1 nul. En termes d'absents, côté lillois, on a Cabella et Cavallero qui sont incertains, donc rien de sûr. Par contre, on a Bentaleb et Ounas en sélection, et Diallo qui est en reprise pour l'instant. Côté l'orienté, on a beaucoup d'absents, donc Gomis, Yongwa, Kaloulou, Formose Mendy, Talbi, Doucouré, Dieng qui sont sélection. Par contre, on a le retour de Muyokolo, Kari, Bakayoko, Mvuka. Max, Lille-Lorient, est-ce qu'on doit s'attendre à une surprise?
Je pense que Lille va faire le travail. Ils savent le faire et ils l'ont très bien fait pour la majeure partie du début de saison. Donc je vois une victoire de Lille 2-0, sachant que Lorient c'est compliqué, qu'ils prennent énormément de buts. Même si Lille n'a pas la meilleure attaque, en fait, je pense qu'ils vont avoir de la chance de tomber sur une très mauvaise défense. Donc, 2-0 pour Lille.
Ok. Alex ?
Je suis d'accord. Je suis très d'accord avec Maxime aujourd'hui. 2-0 pour Lille, je vois aussi, parce que pareil, Lorient...
Tu veux, tu peux même dire à les Rennes à la fin, avec grand plaisir.
Non, non, non. Ah, on m'appelle pour dîner. À la prochaine. Non, et donc, Lille qui s'est pas beaucoup marqué. En fait, ils font un peu comme Nice, hein. Ils font le travail quand ils peuvent. Ils marquent 1 ou 2 buts par match et ils gagnent 1 ou 2-0. Et voilà, en soi, c'est suffisant pour ce qu'ils veulent faire de leur saison, juste gagner le plus de points possible pour côtoyer les 6 premières places. Mais voilà, Lorient en défense, ça marche pas. pour l'instant. Surtout avec tous les départs aussi à la CAN. Ça sera un peu pareil pour beaucoup d'équipes, surtout du bas de tableau, je pense. Mais voilà, 2-0 pour Lille.
Ouais, pas de surprise, je vous suis sur le 2-0 et encore je pense que 2-0 Lille, on est gentil, mais ouais, pareil, 2-0 Lille. Match suivant, Nantes-Clermont. Nantes-Clermont, ça aussi ça
15-0.
va être...
Pour
Comment ça?
Clermont? Non, non.
Nantes-Clermont, Nantes c'est une équipe voilà qui a changé de coach et qui... Est-ce qu'il y a eu des gros changements? Pas trop, parce que sur les 6 derniers matchs, on est sur, certes, une belle victoire face à Nice, mais ensuite on a 3 défaites de suite. Donc sur les 6 derniers matchs, c'est 4 défaites au total, une victoire, un nul. De l'autre côté, en face, on a un Clermont bon dernier du championnat qui est sur 4 défaites et 2 nuls, donc 2 défaites de suite. En termes d'absent du côté de Nantes, on a Castelletto qui est en sélection, Moutu Sami sélection, Simon sélection, Mostafa Mohamed sélection, Ganago blessé, Mepeyou blessé aussi. Du côté Clermontois, on a Mori Diaw qui est en sélection, Seydou en sélection et Bella en sélection. Après, il faut compter le retour de Zéphane et Rachani, ce qui est plutôt pas mal, et Coffrier qui est suspendu. Qu'est-ce que vous pensez de ce match? Maxime, on va commencer par toi. On garde le meilleur pour la fin, on va dire.
Oh, c'est mignon.
Le Maxime,
meilleur, en
toi,
tout cas, c'est
ouais.
pas le match qui sera le meilleur. Hein. On le voit bien
Non.
dimanche
Ah non, ça, on
15h
sait.
avec ce match-là. C'est parfait pour la sieste du dimanche
C'est la
après-midi.
sieste, c'est ça.
Exactement. Alors, c'est possible que les maillots jaunes du FC Nantes puissent nous réveiller avec justement la luminosité du maillot jaune. Mais je verrai quand même. Nantes s'en sortir parce que clairement on n'est vraiment pas très bon, mais ça devrait être un match pour moi, je pense, pas forcément passionnant, mais je verrais quand même une petite victoire, 1-0 du FC Nantes pour essayer quand même de grappiller quelques points.
Ok. Alex?
Je vais essayer d'être objectif. Je suis d'accord, ça va être un match de merde. On le sait presque tous, surtout que nous, à Nantes, on ne sait pas
C'est
jouer
bien,
contre
déjà,
une
il le
petite
dit, c'est
équipe.
bien. C'est
Oui.
très objectif.
Non, mais on ne sait pas jouer contre les petites équipes. C'est toujours les matchs qu'on perd, en fait. Et, ou alors qu'on gagne jusqu'à ce qu'on se fasse égaliser à la 92e. Et malheureusement, j'ai l'impression, enfin, j'ai une petite fée qui me dit ça dans l'oreille, qu'on aura le même scénario où dimanche, voilà, on va mener 2-0, pas assez facilement, mais voilà, on va mener 2-0, on va avoir le match en main et qu'après on va se faire peur dans les 10 dernières minutes. Je pense qu'on va quand même réussir à garder le 2-1, mais bon, moi, on a la victoire, oui. Mais oui, ce que j'attends de ce match surtout, c'est de voir 4 verts. Enfin, pas des verrés, je sais plus. Parce que voilà, on l'a vu en Coupe de France contre Pau, il a marqué son petit doublé, c'était cool, mais voilà, c'est Pau. Sans, j'ai rien contre Pau, hein, bien sûr, mais il nous faut des joueurs qui savent performer en Ligue 1 pour qu'on puisse y rester. Et donc voilà, j'attends de le voir. Et puis aussi, peut-être pourquoi pas Benny Traoré, je le connaissais pas du tout, mais il vient d'arriver là de Sheffield, et puis. Voilà, je suis curieux. Je suis curieux.
Ok.
Je pense que Kadewere, ça va faire du bien et à Nantes et aux joueurs. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément énormément de temps de jeu à Lyon. Et il va avoir, je pense, cette chance-là à Nantes. Donc c'est un bon deal pour les deux parts.
Ok,
J'étais
ouais,
très
moi je...
perspicace au début quand j'ai vu les annonces. Quand j'ai vu Cadveret arriver à Nantes, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'on fait encore? Parce qu'on sait très bien que niveau recrutement, on n'est pas toujours les meilleurs. Mais voilà, En ayant réfléchi sur le sujet, je me dis que ouais, en effet, pourquoi pas, ça peut être bien, surtout pour le joueur. Et puis pour Nantes, ouais, s'il apporte 5, 6, 7, 8 buts, c'est déjà très bien. Dans
Ça, c'est ça.
huit matchs différents déjà. Hein.
S'il en apporte 8, c'est très très bien, c'est sûr.
Ah bah
Oui,
surtout
voilà.
ouais, une deuxième
Dans
partie de
une
saison, c'est
deuxième
très
partie de
très
saison,
bien.
c'est quand même très très bien, oui.
Moi, je vous suis du coup pareil sur le FC Nantes. Hein. Je pense que Nantes va s'imposer face à Clermont. Je pense plus un petit 1-0. Je pense pas que ça va être un match extraordinaire. Donc ouais, un petit 1-0 du FC Nantes, ce serait très bien. Metz-Toulouse. Alors Metz-Toulouse, ça c'est pareil, un petit match. Ils ont mis des matchs parfaits pour 15 heures. toujours aussi bon la Ligue pour programmer les matchs. En tout cas, Metz-Toulouse. Donc pareil, Metz-Toulouse, c'est deux équipes qui jouent leur survie en Ligue 1. Hein, je pense qu'on peut le dire maintenant. Alors certes, Metz était sur une bonne période. Il y a quelques journées, ils avaient enchaîné deux victoires. Là, ils ont enchaîné quatre défaites sur les quatre dernières journées. De l'autre côté, Toulouse, c'est en dents de scie, c'est nulle défaite, nulle défaite, nulle défaite. Hein, donc, ils sont trois nuls, trois défaites sur les six dernières journées. En termes d'absents, côté Messin et côté Toulousain, bah, Toulouse, on a trois joueurs qui sont partis en sélection. Logan Costa, Moussa Diawara et Franck Magri, blessé, bah voilà, toujours Aboukhal qui est blessé, Dessler, Keben et Genro, Schmitt serait incertain. Côté Messin, on aurait Van der Kerkhoff qui est en sélection, Kante en sélection, Lamine Camara en sélection et Jallow en sélection. On a le retour d'Ata et Estupinan qui est incertain, qui serait blessé aux ischio-jambiers. Metz-Toulouse, messieurs, Maxime,
Deuxième match
qu'est-ce que t'as dans ta bille?
pour la sieste et moi je verrais bien continuer la série de Toulouse après sa défaite nulle, défaite nulle, défaite. Donc là on est rendu à nul et donc je verrais bien un match nul entre Metz et Toulouse et en termes de résultats c'est assez compliqué parce que il y a des deux côtés deux mauvaises attaques et en même temps deux mauvaises défenses. Donc c'est vraiment pas simple et j'ai envie de dire 1-1. 1-1 parce que ça va être le deuxième match pour la sieste. Donc voilà, ça va réveiller un petit peu d'avoir des petites notifications de but. Donc je verrai un match nul.
Ok,
Pas très facile pour Malo.
Alex.
Alors, bon, encore une fois, oui, un match qui va égayer mon dimanche après-midi. Mais je vois 1-0 pour Metz parce qu'ils ont besoin de gagner et qu'au bout d'un moment, je pense qu'ils vont se réveiller. Là, il y a le retour de Mikotadze et je crois que ça va leur faire du bien en fait de retrouver, on va dire, plus ou moins leur leader de l'été dernier, enfin ou même de la saison dernière. Et donc, ouais, je pense qu'il va aller de son but, sauver les siens, voilà, le retour du Messi et gagner 1-0. Et Toulouse, voilà, descendre, enfin, pour l'instant, descendre aux enfers. S'ils se réveillent à temps, ce serait bien pour eux. Mais bon, avec l'Europe, etc., je pense qu'ils vont forcément vouloir se privilégier, enfin, prioriser l'Europe. Ce serait normal de vouloir jouer ça à fond.
C'est vrai que ouais, il y a le retour de Mikotadze côté Messin qui est plutôt sympa à ce niveau-là. Après, bon, Toulouse, on en parlait en off, a essayé de se renforcer avec Yann Ngbo, si je prononce correctement. Mais moi, je vais quand même partir sur une victoire toulousaine. Ouais, victoire de Toulouse sur la plus petite démarche. Allez, un 2-1. Ouais, 2-1 pour Toulouse. Ouais, je me chauffe aujourd'hui. Match suivant. Le match suivant, donc on va être sur du Brest-Montpellier. Alors Brest-Montpellier, ça aussi ça va être sympa puisque Brest c'est une équipe qui est c'est l'équipe l'une des équipes en forme de ces dernières journées. C'est simple, c'est la seule équipe qui a fait aussi bien que le PSG sur les 6 derniers matchs, c'est-à-dire 5 victoires et un nul. Ce qui est assez incroyable, Brest propose un jeu assez intéressant. De l'autre côté, on a un Montpellier qui est voilà, l'équipe de milieu de tableau, ça change pas. Sur les 6 derniers matchs, qui a 3 nuls, 2 défaites et 1 victoire. Donc son dernier match, c'était un match nul. En termes d'absents, côté Montpellierin et côté Montpellierin, on aurait pas mal de joueurs qui seront en sélection. Hein, donc c'est-à-dire Berthaud, Kouyaté, Silla, Tchato, Sakho et Moussa Tamari, Akor Adams qui serait incertain, problème de dos. Après, on a le retour de Léo Leroy et de Wahbi Khazri. Et en termes de blessés, Nordin, pardon, Théo Saint-Luce et Mincarelli. Côté Brestois, on a qu'un joueur qui est parti en sélection, c'est Doumbia. On a le retour de Dari. Et en termes de suspendu, on aurait Cablan et en absent, Jordan Amavi. Stade Brestois, Montpellier, messieurs, quels sont vos pronostics en termes de jeu et de score, Maxime?
C'est vrai que Brest est sur une série très intéressante. J'avais un peu peur que ça se termine face à Montpellier, mais quand tu me donnes la liste de tous les absents, j'ai peur que ça ne suffise pas pour Montpellier. J'aurais bien vu un match nul, mais avec tous les absents côté montpelliérain, je pense que ça va être compliqué pour eux. Et donc, je vois peut-être quand même Brest du coup maintenir sa série. Maintenir sa série. Après, je les vois pas forcément faire une grosse victoire. Je dirais, allez, je dirais quand même 2-0. Je dirais quand même 2-0 pour Brest, avec un match quand même assez compliqué, mais un but en deuxième période et Montpellier qui essaye de revenir et Brest qui enfonce le clou aux alentours de la 85e minute.
Ok. Alex?
Alors, moi, je vois plutôt un match nul. Parce que, en effet, Montpellier a beaucoup de départs là, pour la CAN, mais la défense, bon, on va pas dire que c'est la meilleure défense de Ligue 1, bien sûr que non. Mais pendant cette période où justement leur animation offensive ne sera pas au top, ne sera pas là, ils vont peut-être vouloir se recentrer sur la défense et jouer les 0-0 en fait. Donc je vois bien un 0-0 contre Brest.
Ils perdent quand même pas mal de défenseurs hein, quand tu prends Kiki Kouyaté, Falay Sakho et Sébastien Enzo Prato, ça fait 4 défenseurs en moins. Alors pas tous titulaires bien sûr, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué. Hein,
Excusez-moi, j'avais
Ouais.
la mauvaise liste sous les yeux.
Non,
Après, c'est
non, mais c'est possible, j'avoue, tu t'es chauffé. Moi, je pars du. Bah, déjà, Brest, en soi, c'est l'équipe qui est en forme. Voilà, comme je disais, c'est la seule équipe qui a suivi le rythme du PSG sur les 6 dernières journées. Quand je vois les absents côté Montpellierin et même comment jouer Montpellier sans les absents, enfin avec l'effectif au complet, c'était pas ouf sur les dernières journées. Donc moi, clairement, à domicile, je vois le Stade Brestois gagner 2-0, emballer ses pesées, merci, au revoir, quoi. Et ça nous fera peut-être un petit bon match à 15h sur les deux autres. Je pense que celui-là, ça peut être un match intéressant. Et enfin, le dernier match à commenter, Le Havre-Lyon. Pour moi, c'est l'un des matchs les plus serrés. Alors, on a un Lyon qui est sur une très bonne dynamique. Alors, certes, sur les 6 matchs, c'est 3 défaites, 3 victoires, mais sur les 3 dernières journées, c'est quand même 3 victoires, surtout 3 victoires face à des belles équipes, hein, notamment Monaco et le FC Nantes. Ouais, bon, surtout
Merci.
Monaco, quand je parle des belles équipes. Hein, non, je vais couper ça en montage.
Oh, c'est méchant. Oh, c'est méchant.
Ah non, voilà, faut appeler un chat un chat. Voilà, 3 victoires consécutives. De l'autre côté, Le Havre. Le Havre aussi qui est, alors pour un nouveau club en Ligue 1 qui fait quand même de belles prestations, qui est 12e, sur les 6 dernières journées, c'est 3 défaites, 2 nuls et 1 victoire, dont notamment une belle victoire face à Nice. En termes d'absents, tac, 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 tac. En termes d'absents côté Havrais, on aurait Abdoulaye Touré en sélection, André Ayew en sélection, Bayo en sélection. J'ai du mal à croire encore que Bayo et Ayew soient appelés en sélection, mais bon, bref. En suspendu, on a Ndiaye, un certain Lokbo, et on aurait le retour de Grand Cyr. Côté lyonnais, on a quand même en absent Nuama, qui est un joueur assez important côté lyonnais, et Baldé, suspendu Lovren, et en blessé, on a Yoad Le Pennant. Messieurs, Maxime, vos pronostics par rapport à ce match?
C'est vrai que Le Havre est très intéressant pour un promu. Donc, c'est agréable à avoir joué. Pas simple d'aller jouer au Stade Océane là-bas. Ils ont pris pas mal de points. Mais c'est vrai que Lyon est sur une vraie dynamique. Je les vois maintenir cette dynamique-là. Avec un match assez serré quand même. Parce que c'est vrai que c'est pas simple de jouer Le Havre. Je dirais 2-1 pour Lyon. Avec un match vraiment serré. Où on verra un vainqueur au mérite.
Ok. Alex?
Ouais, match très serré, je suis d'accord. Mais je ne vois pas Lyon continuer tout de suite, surtout parce que Le Havre a aussi envie de continuer sa série. Sa série n'est pas du tout la même, on est d'accord. Mais ils ont besoin de confirmer en fait les victoires ou les points qu'ils prennent sur les 2, 3 derniers mois. Et je pense que partir sur un match nul, un petit, encore une fois, un partout. Ouais, je vois les deux équipes en fait qui vont rien lâcher jusqu'au bout et qui vont attaquer à fond, mais défendre à fond aussi, et que ça va être très compliqué pour eux, ouais, pour les deux de trouver la faille en fait.
Ouais, je te suis. Moi, je partirais aussi sur un match nul, surtout que Lyon perd un Nuama qui est l'une de ses grosses armes offensives, surtout sur ce début de saison, hein, de manière générale, hein, même s'il marque pas tant que ça, mais c'est l'un des gros dynamiteurs. Donc ça peut peser. Le Havre propose quand même du jeu. Voilà, avec pareil un autre de mes petits chouchous, le petit Kechta que j'ai découvert cette année. Ouais, je dirais un petit match nul 1-1. Ouais, match nul 1-1, Le Havre-Lyon. Messieurs, merci de m'avoir accompagné pour ce podcast. Hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé. Dans tous les cas, on se retrouve ce week-end pour regarder les petits matchs de Ligue 1 qu'on a pu commenter. J'espère qu'on aura du spectacle. Merci à vous d'écouter ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on vous aura aidé pour mieux comprendre les matchs du week-end. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des plateformes audio, donc plateforme podcast, que ce soit Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, en tout cas, non, pardon, X, Threads ou encore Instagram. En attendant, on vous souhaite un bon week-end dans le plus beau championnat d'Europe, du monde et de la galaxie.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.